Les héroïnes, une heure avec des meufs.
Il y a quelque chose qui nous lie, nous vivons toutes les deux la nuit. Nous sommes nés sur les mêmes terres, encore plus à l'ouest que l'enfer. Jamais je ne te l'ai dit, je pense que la mélancolie qui coule dans ton sang et le mien est issue de ce foutu sang.
Les héroïnes, une heure avec des meufs sur Canal B.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les héroïnes, une heure avec des meufs. Bon ben voilà, novembre s'achève et on a un peu la gueule de bois. J'ai un peu la gueule de bois. Le ministère de l'Intérieur balance des chiffres vraiment pas réjouissants. On s'est mobilisé pour la journée du 25 novembre. Enfin certaines plus que d'autres, n'est-ce pas Emma, notre nous toutes 35 members. Alors je vous le rappelle, hein, 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et puis c'est la fin de l'année et avec elle le résultat du décompte des féminicides perpétrés en 2023. Bref, j'ai la gueule de bois. C'est bien de commencer comme ça, ça annonce la couleur. Bonjour Marine.
Bonjour.
Marine Combe, vous êtes fondatrice et rédactrice en chef du magazine YEG, qu'on retrouve sur yegmag.fr. Bonjour Emma.
Bonjour.
Outre le fait d'être notre nous tous 35 members, vous êtes étudiante à Sciences Po, vous êtes autrice d'un mémoire sur le militantisme.
Oui.
Parce que je le dis parce que ça va faire l'occasion d'une émission en 2024.
Ok.
Chouette.
Vous vous rappelez le titre de ce mémoire ?
Le titre exact, c'était « La domination masculine dans le militantisme d'extrême gauche, réinventée en une culture militante féministe ». Comme ça.
Voilà, et ben bientôt en 2024. Bonjour Suzanne.
Bonjour.
Vous êtes la créatrice des ateliers Suzette Décolle les étiquettes. Ce sont des ateliers d'éducation à l'égalité filles-garçons et à la sexualité. On reçoit aussi dans les héroïnes deux invités aujourd'hui, Charlotte Hervault qui est journaliste, qui vient de publier un guide avec le CHU de Rennes sur les fausses couches précoces et les grossesses extra-utérines. Des guides coécrits avec l'équipe soignante, dont notre deuxième invitée, Louise Jacot-Thierry, gynécologue obstétricienne au CHU de Rennes. Avec elle, on parlera de ces deux tabous sur lesquels il n'y a pas grande littérature et dont on parle peu, voire pas, aux femmes concernées et à celles qui pourraient l'être concernées. Ce qui pose problème, on le verra tout à l'heure, parce que pour l'instant, c'est le moment de la revue d'actu des héroïnes. Et c'est avec vous, Marine, qu'on va commencer. Marine, vous nous racontez à J-24, votre liste de Noël. Putain, j'ai eu peur, hein, dans ma tête, H, quoi, c'est demain H-24. J-24, vous nous racontez votre liste de Noël. Un Noël placé sous le signe de la déconstruction de la virilité. N'en déplaise à tonton René et ses blagues misogynes devant la dinde au marron.
Exactement, fuck tonton René et toutes les remarques sexistes, racistes, LGBTI-phobes, validistes et on en passe. Je commence d'abord par un petit tour pas réjouissant de la presse du mois dernier. Sur les réseaux sociaux, le HuffPost écrit « L'actrice qui joue Monica a posté un message sur Instagram peu après celui de Matt Leblanc. Rien n'est bon là-dedans. Pour info, l'actrice qui joue Monica s'appelle Courtney Cox et Matt Leblanc est l'acteur qui joue Joey. » Loopsider nous propose aussi une vidéo sur les chaises contre le syndrome des couilles de cristal, soit le manspreading. Le média nous dit « C'est une designeuse qui les a inventées pour que les hommes apprennent à prendre moins de place et les femmes à en prendre plus. » Au bout de 45 secondes de vidéo, sur 1 minute 20, on apprend que la créatrice s'appelle Laila Lorraine. Le Monde titre « Le Havre, 5 plaintes pour agression sexuelle déposées par des supportrices après des palpations à l'entrée du stade ». Le Monde toujours « En Russie, des groupes de femmes protestent contre la mobilisation infinie des soldats ». Elles sont mères, épouses et demandent le retour de leurs proches envoyés combattre en Ukraine depuis septembre 2022. Le journal indique une revendication pas à l'ordre du jour au Kremlin. Nous toutes 35 rappelle par communiqué de presse, sous la mandature d'Emmanuel Macron, 850 hommes ont tué 850 femmes. Ce sont 850 féminicides, dont 75% dans le couple. Ce sont 1000 enfants orphelins. Période Studio sur Instagram propose une revue de presse dans son poste Les Accusés de la Semaine. P. Diddy dans People, visé par une nouvelle plainte pour viol. Sur France Info, l'acteur américain Jamie Foxx, visé par une plainte pour agression sexuelle. France Info toujours, Sébastien Coé, accusé de viol, pluriel. Vanity Fair, le leader du groupe de Guns N' Roses, Axl Rose, accusé d'agression sexuelle. Et enfin, Le Monde et l'AFP, Gabriel Matzneff, accusé de viol, pluriel, sur mineur, par une femme. Le parquet ouvre une enquête, sans oublier l'enquête actuellement en cours sur les violences sexuelles perpétrées par le Hamas sur les femmes juives le 7 octobre dernier. Ça, c'est un résumé. Un échantillon, un petit peu, de l'ampleur des violences patriarcales, majoritairement commises par des hommes sur des femmes. J'en ai déjà parlé ici, j'anime des ateliers en prison, dans lesquels les femmes et les hommes dialoguent autour des thématiques liées à l'égalité femmes-hommes. On y aborde la question des violences dans l'espace privé, des violences dans l'espace public, et on échange autour des féminités, des masculinités et de la virilité. Et à chaque groupe, comme en règle générale dans le reste de la société, hein, on voit que la distinction ne se fait pas entre masculinité et virilité. On perçoit du côté des hommes un enjeu essentiel à la performance, voire la surperformance de la virilité, et on perçoit du côté des femmes qu'elles dénoncent les violences subies, mais exigent des hommes qu'ils soient virils. Quand on établit le lien entre virilité et violence, on voit parfois des visages se décomposer. Parce qu'on confond depuis longtemps masculinité et virilité. Et cette injonction à la virilité, elle pèse sur l'ensemble de la population, je vous le rappelle, 95,2 milliards d'euros chaque année en France. C'est le coût de la virilité, estimé très en deçà de la réalité par l'historienne Lucille Pétavin. Alors, pour Noël, sur ma liste, j'ai commandé un peu d'espoir, de quoi se donner de la force pour poursuivre la lutte contre le patriarcat. J'ai bien évidemment demandé des livres écrits par des femmes et des personnes sexisées sur la condition des femmes et des personnes sexisées. Et puis, j'ai ouvert mon Noël féministe à des bouquins écrits par des hommes qui écrivent sur la condition des hommes. Alors, pas ceux qui se vantent de leurs exploits sexuels sur des gamines et des gamins de moins de 14 ans. Pas ceux non plus qui expliquent que pour eux, passer 50 balais, les femmes, elles sont périmées, comprendre qu'elles sont plus désirables. Pas ceux, en fait, qui parlent des vieux mâles blancs privilégiés socialement, financièrement, géographiquement, etc. Ceux qui nous parlent des hommes à la marge de cette virilité néfaste et destructrice. Dans ma liste, on trouve « Nos pères, nos frères, nos amis » dans « La tête des hommes violents » de Mathieu Poulain, qui avait fait en 2019 la série « Des hommes violents » sur France Culture. Il explore la violence masculine en rendant compte de la parole des hommes condamnés pour violence conjugale, mais aussi celle des victimes. On trouve aussi « Je ne suis pas viril » de Ben Nevers, qui explique que gamin, le seul personnage auquel il s'identifiait, c'était Bob l'éponge. Déjà, rien que moi, ça, j'achète le bouquin. Hypersensible, il relate son enfance, sa construction en tant qu'homme, qui se ressent différent, parce qu'il ne répond pas aux critères de la masculinité virile. Et puis, on trouve aussi « Pourvu qu'il soit dur », chronique de ma masculinité de Thomas Gravereau, qui, par le prisme de son histoire banale, vient interroger le rôle qu'on réserve aux garçons et la place qu'on fait au sexe, notamment quand il s'agit de la sacro-sainte verge, comme il le dit. Et enfin, sur ma liste, on trouve la BD Testostérore de Luz, qui imagine un virus qui fait chuter le taux de testostérone des hommes et ça se répand sur la planète. J'arrive pas à le lire sans rigoler. Saint-Patrick, concessionnaire automobile dans la zone d'activité commerciale de Saint-Pierre-le-Caillou, est contaminé. Il se réfugie paniqué dans une secte masculiniste, mais trop tard. Il se détache du mouvement viriliste alors que son fils s'y engouffre. Moi, je trouve ça génial. Alors voilà, à la lecture de ma liste, on m'a dit « Dis donc, tu sais t'amuser, toi, pour Noël, et oublier le boulot. » Bon, bah déjà, merde. Moi, je trouve ça super réjouissant. Je comprends bien que d'un point de vue extérieur, on trouve ça un petit peu vertigineux de s'attaquer au problème par la racine. Moi, j'y trouve beaucoup d'optimisme dans ces récits. En fait, juste dans le fait que des hommes, là, je cible les hommes cisgenres hétéros, se sentent concernés et viennent affirmer leur inadéquation avec le modèle normatif dégueu de la virilité, moi, je trouve ça optimiste. Je les érige pas en héros, je me désintéresse pas pour autant et surtout pas des discours combat vécu et action des femmes et des personnes sexisées. Je pense qu'elles seront et seront toujours les premières concernées et les personnes les plus courageuses qui soient. Mais on le sait, le patriarcat violente les femmes et les hommes, aussi de par ces schémas réducteurs et meurtriers dans lesquels ils enferment les mecs. Lutter contre la virilité, c'est lutter contre les violences faites aux femmes. Alors moi, je veux les lire et les entendre, ces discours de mecs qui refusent et ne cautionnent pas ce système viriliste. Et promis, je partagerai avec vous tout ce qu'ils en disent et ce que ça procure.
Merci Marine d'avoir partagé avec nous votre liste de Noël. Je sais, vous l'avez déjà dit, que vous allez continuer de nous en parler, de la déconstruction de la virilité et de l'exploration des masculinités. On me glisse même dans l'oreillette qu'il y a bien sûr d'autres livres dans votre besace, des spectacles de théâtre, des documentaires aussi, tout un programme. Merci pour le fou rire où j'ai failli m'étouffer sur Bob l'éponge. Et j'avais envie de faire un truc. C'est dégueulasse parce que je l'aime bien, Luz, mais je vais le faire quand même. Luz, le mari de Camille Emmanuel.
Oui,
tu vois, hein,
j'ai failli le faire aussi. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'on fait une basse vengeance justement?
Ouais, mais c'est dommage, ça tombe sur lui.
Ouais, mais j'ai pensé à ça aussi par rapport au documentaire Les Petits Mâles. Non, c'est, si, ça s'appelle Les Petits Mâles, là, de Laurent Métairy, où je voulais dire, c'est le mari.
C'est le mari de Camille.
Froidevaux-Métairy.
Ouais, bah ouais, on va faire comme ça maintenant. Emma, oui. vous avez vu un film, on passe du livre au film, qui vous a fait du bien. Ouais. Et c'est un film qui a fait un peu la polémique, c'est How to Have Sex, et vous allez nous raconter ça.
Oui, alors moi, comme je travaille dans un cinéma, donc cette actu, c'est donc sur How to Have Sex, le premier long métrage de Molly Manning Walker. Pour celles qui n'en ont pas entendu parler, c'est l'histoire de trois jeunes femmes qui vont en vacances pour enchaîner les soirées en Crète, avec l'idée de boire à n'en plus pouvoir, de faire nuit blanche sur nuit blanche avec leurs voisins anglais rencontrés en arrivant. Mais c'est surtout un film qui parle de ce que c'est de faire la fête quand on est une femme, des questions qui vont avec, de consentement, de la pression autour du sexe et des premières fois, et surtout dans le contexte de la consommation excessive de drogue et en particulier d'alcool. La réalisatrice explique que le film lui a été inspiré par deux moments précis de sa vie. D'abord l'agression sexuelle dont elle a été victime alors qu'elle avait 16 ans, puis une fête dans laquelle elle a été témoin d'une fellation en public, vue comme une sorte de jeu sexuel, scène qu'elle a d'ailleurs retranscrite dans le film. En recevant son trophée pour le prix Un certain regard au Festival de Cannes, la réalisatrice a dit qu'elle dédiait ce film à toutes les personnes qui ont été agressées sexuellement. Pour pouvoir parler de ce film, je crois que c'est important de rappeler vite fait les concepts de female gaze et de male gaze, donc regard masculin, regard féminin. Donc pour celles qui ne sont pas au courant, donc le male gaze ou regard masculin, ça a été théorisé notamment par Laura Mulvey, et ça définit ces codes de cinéma, vous les connaissez sûrement très bien, qui objectivent les femmes et qui renvoient donc un regard patriarcal et ultra sexualisant sur leur corps, leurs émotions et leur façon d'agir. Donc on filme leurs fesses et leurs seins et leurs personnages ne sont pas vraiment écrits, c'est juste des accessoires pour faire joli. A l'inverse, le regard féminin, à propos duquel Iris Bray a consacré un super livre, se concentre sur l'idée de montrer les femmes comme des sujets et ça remet leurs émotions au centre. Et c'est des personnages qui font un peu plus sens. Et personnellement, je crois que ce film est un de ceux qui m'a le plus marqué en termes de regard féminin et de l'importance des points de vue. Donc le film suit de très près Tara, qui est jouée par Mia McKenna-Bruce, et bravo à elle. Il s'inspire et reprend complètement les codes des films de Spring Break classiques, sauf qu'il est filmé du point de vue d'une femme et qu'elle y est victime de viol. C'est impressionnant la façon dont la réalisatrice et l'actrice réussissent à faire ressentir aux spectateuristes exactement les mêmes émotions que Tara. On commence par l'excitation de ses vacances, où on va pouvoir faire la fête, se lâcher, enfin avoir des expériences sexuelles. On se prépare avant la soirée avec les trois filles qui se confient, se prêtent des fringues. Puis on les suit dans la foule aux couleurs fluo et aux lumières aveuglantes, avec ces scènes de fête qui représentent parfaitement à la fois la libération et la désinhibition qu'on est censé y ressentir, mais aussi le malaise devant les jeux et références sexuelles à outrance et ce sentiment d'enfermement quand on est une femme seule au milieu de la foule. Le film est criant de réalisme, jusque dans sa façon de traiter les violences sexuelles. Donc dans son livre, Iris Bray écrit qu'un viol vu à travers un male gaze est un spectacle, mais qu'un viol vu à travers un female gaze est une expérience qui marque la chair. Et ce film l'illustre très bien. Les viols sont partiellement montrés et sont filmés du point de vue de Tara. Il traite vraiment cette question de consentement et de la difficulté de dire non, et surtout de la responsabilité des hommes à y faire un peu attention. On ressent le basculement du film et de sa vie, il y a un vrai avant et après. Et elle n'en parle pas directement à ses amis, mais beaucoup de choses se jouent dans les silences et dans les non-dits. C'est un film, effectivement, qui a été très clivant, même dans mon entourage. Il a été beaucoup accusé d'être trop neutre et de simplement dépeindre une réalité. Mais je crois que c'est militant aussi de dépeindre une réalité quand elle a été autant déformée, d'aborder ces questions à travers une fiction sans forcément nommer les termes de viol, de consentement, simplement parce qu'on est encore dans la tête de Tara qui ne met pas forcément des mots sur ce qu'elle vient de vivre. Et la façon dont on filme, elle est aussi politique et le point de vue adopté n'est pas neutre, encore moins sur ces sujets. Donc moi, en tout cas, je me suis vue dans ce film et paradoxalement, oui, il m'a fait beaucoup de bien. On voit beaucoup, souvent, des films qui glorifient la fête et l'alcool et les premières fois. On voit souvent des viols ultra-violents avec des femmes qui se débattent. Mais on voit rarement des films qui suivent une jeune femme dans sa découverte des soirées et de leur côté très glauque, de la nécessité de l'amitié féminine dans ces moments et de ce que c'est de grandir dans un monde patriarcal qui sexualise nos corps avec des rapports de pouvoir et des injonctions au sexe qui rendent très difficile l'expression d'un consentement libre et éclairé. C'est un film important et je le recommande à tous celles et ceux qui se sentent capables d'aller le voir.
Ça s'appelle How to Have Sex.
Oui.
Et Emma, on reste sur le cinéma, oui, parce qu'il y a deux projections, lundi et mercredi, qui sont organisées par Nous Toutes 35. La première, c'est lundi, c'est à l'Arvor.
Oui, c'est le film Je vous salue salope. Donc c'est un documentaire sur le cyberharcèlement sexiste. Fait de témoignages de femmes qui ont été cyberharcelées. Et mercredi, donc, c'est à 18h30 à la maison de quartier Ville-Jean et c'est sur la loi de 2004. Et c'est aussi un documentaire qui, 20 ans plus tard, donc, revient aussi sur les questions de l'abaya, etc.
Et sur « Je vous salue, salope », on en avait parlé, j'avais signifié sa sortie en octobre. Et dedans, il y a 4 femmes qui vont témoigner du cyberharcèlement qu'elles ont vécu. Il y a notamment Marion Séclin qui a été, elle, mais ça a été terrible hein, ce qu'elle a vécu, des menaces de mort, des menaces de viol, et elle raconte comment ni les autorités, ni les forces de l'ordre, ni les géants d'Internet n'ont fait quoi que ce soit. C'est de là qu'est né le documentaire, en tout cas, et ça se passe lundi 20h15 à l'Arvor.
Oui, et c'est suivi du coup d'un échange pour organiser la riposte, puisque manifestement, l'État ne fait rien.
Ah bon, pourtant, nous allons arrêter les violences. Ils ont fait ça quand même, ils ont dit ça.
Ils ont dit.
Suzanne, justement, on reste un peu dans cette ambiance militante parce que vous nous faites un retour sur ce mois de novembre et une analyse en fait sur les deux temps forts du militantisme féministe qui sont donc le mois de novembre et le mois de mars.
Exactement, quand on s'intéresse aux questions d'égalité et de lutte contre les discriminations, notamment sexistes, il y a souvent deux grosses périodes de mobilisation dans l'année, donc vous l'avez dit, autour du 8 mars et de la Journée internationale des droits des femmes, et une autre autour du 25 novembre et de la Journée internationale pour l'élimination des violences sexistes et sexuelles. Donc novembre, le mois de mobilisation contre ces violences, vient justement de s'achever. On a vu de nombreux événements qui ont eu lieu partout en France pour réfléchir, s'outiller, sensibiliser, comprendre les enjeux et aussi rassembler autour de ces luttes. Et comme à chaque fois, cette ambiance, elle est à la fois ancrée dans une triste réalité parce qu'on se reprend les chiffres en pleine face, et ils parlent d'eux-mêmes et on se prend aussi tous les témoignages qui sont toujours plus nombreux. Mais cette ambiance, elle est aussi porteuse d'espoir que le message se diffuse toujours plus et que petit à petit, les choses bougent aussi bien au niveau politique que dans la tête de chacun chacune, parce que la difficulté c'est justement de faire en sorte que les actions et les prises de conscience s'installent dans le temps, au-delà de ces deux périodes qui permettent toutefois de visibiliser et de médiatiser ces sujets. Alors d'un point de vue politique, bien sûr, on a toujours besoin de plus de moyens humains, matériels, financiers pour lutter contre les violences et pour les prévenir, tout comme on a également besoin d'un cadre légal plus poussé pour mieux encadrer et caractériser les violences et pour réduire l'impunité généralisée qui flotte dans l'air. Mais face à cela, voilà, on est forcément insatisfaite de ce qui se passe. Il y a quand même deux nouvelles politiques de ce mois-ci qui en plus ne vont pas dans le même sens. Donc d'une part, il y a la première ministre Elisabeth Borne qui a annoncé 22 mesures pour renforcer la protection des mineurs dans le cadre du nouveau plan 2023-2027 contre les violences qui leur sont faites. Parce qu'on le rappelle, les enfants sont les premières victimes des violences sexuelles. Et cette annonce, elle fait d'ailleurs suite au dernier rapport cinglant de la CIVISE, qui est la commission indépendante sur l'inceste et sur les violences sexuelles faites aux enfants. Donc parmi ces mesures, on a effectivement une promesse de moyens et de formation, notamment pour renforcer les actions de l'Office chargé des violences faites aux mineurs et pour renforcer aussi le secteur de la protection de l'enfance, mais aussi pour assurer le déploiement de nouveaux programmes d'éducation à la vie affective et sexuelle à partir de la rentrée 2024. Donc forcément, à titre personnel, j'ai très envie de suivre ce que ça va donner, la mise en place de ces mesures et voir si c'est juste un effet d'annonce ou enfin voilà, quelle forme ça va prendre concrètement. Mais l'autre nouvelle qui du coup va dans le sens tout à fait contraire, c'est que la France s'est opposée dernièrement, au même titre que la Hongrie, la Pologne ou encore la République tchèque, à une directive du Parlement européen qui proposait d'inscrire le consentement dans la définition du viol afin de faire converger les législations européennes sur ce point. Voilà, donc on voit que du côté politique, l'engagement est encore très fébrile. Voilà, ça c'est sûr qu'on peut le dire. Mais j'ai quand même envie de dire, ne baissons pas les bras et poursuivons les actions de notre propre côté. Parce que pour moi, les questions de lutte contre les discriminations, c'est un peu comme l'écologie. On sait très bien qu'il faut des décisions et des actions affirmées, engagées d'ampleur nationale pour aller plus vite et plus loin. Mais on sait aussi que tout cela ne se fera pas sans une société civile qui prend conscience, qui alerte sur ces sujets et qui entame elle-même un changement. Donc si la politique ne fait pas son job, ben, nous on peut quand même essayer de continuer à faire ce qu'on fait déjà. Alors du coup je vais me tourner vers vous pour aborder ce qui peut être fait à notre échelle et notamment dans les structures éducatives, parce que forcément je crois dur comme fer que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde, comme le disait Mandela, et qu'on peut installer un changement durable auprès des nouvelles générations. Sauf qu'en matière d'enfants ou d'ados, on le sait, l'apprentissage nécessite de la répétition, encore et encore, et de l'ancrage dans le quotidien. Ça veut dire que sur les questions d'égalité et de lutte contre les violences, il vaut mieux mille et une petites discussions quotidiennes sur ces sujets, qui peuvent parfois nous sembler anodines, plutôt qu'un temps fort, une fois par an, autour du 8 mars ou du 25 novembre, surtout si ces échanges ne sont pas poursuivis ensuite, parce que parfois c'est le cas. Donc on le sait, c'est dans le quotidien et sa banalité qu'énormément de choses se jouent et se reproduisent. Et dès la petite enfance, l'espace physique et sonore n'est pas occupé de la même manière par les filles et les garçons, et ça se répercute après dans les cours d'école et ça se répercute dans l'espace public. On sait aussi que l'accueil des émotions n'est pas le même depuis le plus jeune âge, et on sait aussi toutes les répercussions que ça peut avoir à l'âge adulte. De même, les horizons proposés en termes d'apparence physique et vestimentaire, de jouets, de sport, de loisirs, de représentation et j'en passe, ne sont pas les mêmes. Et tout cela a des conséquences sur les enfants et sur la manière dont ils et elles grandissent, plutôt l'un à côté de l'autre que ensemble. Et donc pour opérer toutes ces petites discussions du quotidien, voilà, à défaut d'avoir des moyens conséquents de la part de l'État, qu'est-ce qu'on peut faire dans les structures éducatives ? Eh bien, on peut par exemple rebondir sur ce qui arrive à nous, donc l'actualité, les sorties culturelles, les propos qu'on entend, les situations, et surtout ne pas faire l'autruche par rapport à tout ce qui peut se passer dans une cour de récré, parce que c'est un parti pris du coup de ne rien faire. On peut aussi mettre à disposition de l'affichage ou de la documentation qui soit présente tout au long de l'année pour inscrire aussi le sujet sur les murs et dans les murs. Par exemple, dernièrement, j'ai vu à la fac de Rennes 2 de géants violentomètres collés au sol, et je pense que ça pourrait prendre toute sa place, y compris dans des collèges et des lycées, d'autant plus que c'est un outil que les jeunes regardent avec curiosité et intérêt et que ça leur fait souvent des déclics. On peut également faire mention des questions d'égalité dans les règlements intérieurs, dans les chartes, dans les protocoles, tout ça pour revenir au cadre si besoin. Et on peut aussi réfléchir aux règlements concernant les tenues vestimentaires, parce que ça aussi, ça a des impacts réels sur la vie des jeunes. Par ailleurs, on peut veiller bien sûr à la mixité des représentations dans les visuels qu'on utilise, dans les livres, dans les jeux à disposition et aussi dans les propositions d'exercices, comme les exposés par exemple. On peut également désigner des personnes référentes de ces sujets dans les équipes pour continuer à se former, informer, sensibiliser, mettre en place des actions. Donc ça peut être des personnes référentes sur les questions d'égalité et sur les questions de vie affective et sexuelle. Et par ailleurs, on peut impliquer les enfants et les ados sur ces questions-là. Par exemple, on peut distribuer des rôles et des métiers dans sa structure pour inviter à la participation sans que ça soit genré du type « les filles rangent la dinette et les garçons rangent le coin voiture » parce que je l'ai déjà entendu en accueil de loisirs. Mais on peut aussi les impliquer dans une réflexion autour de l'occupation de la cour de récré, justement, mettre en place ce qu'on appelle des bancs de l'amitié pour laisser personne sur la touche et développer un climat de l'empathie, etc., etc. Bref, il y a plein de mini-actions qu'on peut faire et qui pour moi, demandent de la transversalité parce que tout s'imbrique et on a besoin de parler d'égalité et de respect tout au long de l'année, même si voilà, les moyens ne suivent pas toujours en face.
C'est clair qu'ils ne suivent pas. On peut rebondir avec des enfants capables de comprendre les termes sur effectivement les propos d'Emmanuel Macron qui refuse de mettre la notion de consentement dans cette dans la définition du viol que veut écrire l'Union européenne. Moi, je trouve ça aberrant que voilà, on n'en parle pas plus que ça dans les médias. Moi, je l'ai eu l'info par en suivant comment il s'appelle le mec de Léa Salamé.
Raphaël
Glucksmann, voilà, et Pierre Laroutourou, j'ai eu cette info comme ça, mais c'est barge, quoi. Ça, il faut rebondir dessus, ouais.
Alors que, en plus, enfin, tous les jeunes, moi, quand j'en parle avec eux, la définition du viol, ils le disent d'eux-mêmes, c'est voilà, c'est un rapport sexuel non consenti.
Voilà,
donc en fait, c'est une définition qui est déjà largement partagée, mais qui n'est pas légiférée en tout cas.
Ouais, mais je crois que ouais, ça, il y a des choses qui se passent dans sa tête. Et on va lutter contre les violences, mais non, on va pas mettre la notion
de trop consentement.
Ouais, voilà.
Là où on voit les effets de communication et l'engagement, quoi.
Ouais. C'est ça, tout à fait. Alors moi aujourd'hui, je vais vous donner quelques chiffres ou vous les rappeler. Alors je sais, c'est pas hyper radiophonique, c'est pas radiogénique, mais c'est important. Ce sont les chiffres du collectif féministe Nous Toutes, publié en novembre, et ceux aussi du ministère de l'Intérieur. En 2022, 147 femmes ont été tuées en raison de leur genre, dont 75% par leur compagnon ou ex-compagnon. Aujourd'hui, 1er décembre 2023, déjà 121 femmes ont été tuées. Je vous mettrai sur le site des héroïnes le mur fémage de Nous Toutes. Vous pourrez aller lire les prénoms de ces femmes qui ont été tuées. En France, donc, une femme est tuée par son conjoint ou ex-conjoint tous les 3 jours. 97% des auteurs et autrices de violences sexistes et sexuelles sont des hommes. Voilà, on peut dire auteurs parce que hein, comment c'est la nouvelle écriture, c'est le masculin qui
l'emporte.
Voilà. On va reprendre la phrase. 97% des auteurs de violences sexistes et sexuelles sont des hommes. 80% des plaintes pour violences conjugales sont classées sans suite. Seulement 0,6% des accusations de viol donnent lieu à une condamnation. On compte 250 viols ou tentatives de viol par jour. 84% des victimes de cyberharcèlement sont des femmes. 80% des femmes handicapées sont victimes de violences. 75% des agressions islamophobes visent des femmes, voilées ou non, dont 100% des agressions physiques les plus graves, c'est-à-dire avec 8 jours d'ITT et plus. 2 à 3 enfants par classe sont victimes d'inceste. 10 880 000 Français et Françaises ont subi, alors c'est 16%, donc j'ai préféré mettre en millions, je trouvais que ça, voilà. Presque 11 millions de Français et Françaises ont subi une maltraitance sexuelle dans leur enfance. Un adulte sur 6 vit avec la mémoire de violences sexuelles subies dans l'enfance. En novembre, le ministère de l'Intérieur publiait ce chiffre. 244 000 victimes ont été enregistrées en 2022 pour violences conjugales, dont l'immense majorité sont des femmes, souvent avec enfants. C'est 15% de plus en un an, c'est 2 fois plus qu'en 2018. Et je vous rappelle, 80% des plaintes pour violences conjugales sont classées sans suite. Il y a en France 45 interventions de la police par heure pour des faits de violences intrafamiliales, presque une intervention par minute pour violences intrafamiliales. Et ce sont dans la très grande majorité des cas des violences masculines. Parallèlement, le budget dépensé par l'État pour chaque femme victime accompagnée a baissé de plus de 25%. Alors je sais, Je sais, la parole s'est libérée, les femmes osent enfin parler et porter plainte, donc les chiffres augmentent. Ok, on est d'accord, ça augmente. Mais si les aides ne suivent pas, ça sert à rien. Il faut que vous parliez, Marine, quand on a préparé l'interview de Charlotte et de Louise qui va suivre, vous parliez de libération de la parole. Vous dites, en fait, il vaut mieux être sur l'écoute et une bonne écoute. Eh ben, là, c'est ça le problème. C'est que on a libéré la parole, ok, mais il faut qu'elle soit vraiment accompagnée, cette libéralisation de la parole. Et donc, il nous faut des moyens, il nous faut du pognon. Bref, j'ai la gueule de bois. On va faire une pause musicale dans les héroïnes sur Canal B. Alors, on va écouter un titre, un groupe qui, dans le cadre du festival Les Femmes S'en Mêlent, c'est un festival itinérant qui, depuis 97, œuvre pour une plus grande visibilité des artistes femmes dans la musique. Et ben, dans le cadre de ce festival, l'UBU a accueilli hier deux groupes. Hier soir, c'était Ada Oda et c'était Grandma's House. Et c'est celui-ci qui nous intéresse. Alors, c'est un groupe qui est originaire de Bristol, en Angleterre. C'est un trio queer punk qui joue un punk rock militant, offensif, festif et transgressif. Et on va écouter leur titre Body sur Canal B dans les héroïnes. C'était donc le titre Body de Grandma's House sur Canal B dans les héroïnes, un groupe qui était hier sur la scène de l'UBU dans le cadre du festival Les Femmes S'en Mêlent. Sur le site du CHU de Rennes, sur la page consacrée aux services maternité et obstétrique, on peut trouver des guides sur l'alimentation du bébé, les césariennes programmées, le pot à pot, l'accompagnement à la parentalité. Et puis, depuis cet automne, on trouve deux nouveaux guides, moins joyeux mais tout aussi nécessaires. L'un évoque les fausses couches, l'autre les grossesses extra-utérines. C'est à vous, Charlotte Hervault et Louise Thierry Jacquot, entre autres. que l'on doit ces deux guides. Ils sont illustrés par Mathilde Lemiel. Je ne sais pas si je prononce bien, Marine. Petit coup d'œil, c'est ça ? C'est Lemiel ?
Non, moi, j'aurais dit comme ça aussi.
Bon, on va dire comme ça, Mathilde Lemiel. Ce sont à chaque fois 15 pages absolument nécessaires pour aider celles qui passent malheureusement par là et sortir ces deux événements traumatiques de l'obscurité du tabou.
Charlotte Hervault, vous êtes journaliste indépendante à Rennes et Louise Jacotiri, vous êtes gynécologue obstétricienne au CHU de Rennes. Ce qui vous lie, c'est le travail que vous avez réalisé en collaboration avec d'autres professionnels, des sages-femmes, des gynécologues, une infirmière du CHU de Rennes, autour de deux livrets d'informations concernant la grossesse arrêtée précoce, communément appelée fausse couche. On pourra revenir sur l'utilisation de ce terme et dire en quoi potentiellement il est problématique, et la grossesse extra-utérine. Charlotte Hervault, du coup, Morgane l'a dit, il y a un an, vous découvrez le compte Instagram de Mathilde Lemiel, intitulé « Mais presque rien », sur lequel elle sensibilise aux grossesses arrêtées et de manière plus générale aux questions relatives au corps des femmes. Qu'est-ce qui se passe pour vous lorsque vous découvrez ce compte ?
Donc Mathilde, elle est autrice de bande dessinée. Elle a vécu ce qu'on appelle des fausses couches à répétition, 4 en l'occurrence. Et elle tient ce compte Instagram que je découvre quand moi, je suis en train de vivre une fausse couche, une nuit d'insomnie en fait. En fait, dans la journée, moi, je suis allée aux urgences gynécologiques de Rennes. J'étais enceinte de 6 SA, donc 6 semaines aménorrhée, donc le tout début d'une grossesse. J'avais pas de douleur ni rien, mais je saignotais. Voilà, donc j'entends juste pendant la consultation que j'ai pas de sac, qu'il y a pas de sac en fait. Je sais pas ce que ça veut dire. On me dit que je dois revenir dans 3 jours. Je comprends pas non plus vraiment pourquoi. Et donc, je découvre vraiment son travail sur Instagram en pleine nuit, en essayant de chercher des réponses à mes questions. Voilà, donc pendant ces 3 jours, en fait, on me dit pas non plus ce qui peut se passer. Et en fait, c'est en tombant sur le compte de Mathilde que je comprends ce qui se passe en fait dans mon corps. Voilà.
Et Charlotte, comment vous avez ressenti et vécu le manque d'informations au moment où vous quittez les urgences gynéco avant de découvrir le profil de Mathilde Miel ?
En sortant des urgences, je suis un peu décontenancée parce que je comprends pas ce qui m'arrive. Mais c'est plutôt la nuit quand je commence à saigner et quand je commence à avoir mal qu'en fait... comme je comprends pas ce qui se passe dans mon corps, clairement je flippe. Voilà, j'appelle les urgences, j'essaye de comprendre un peu ce qui se passe. Et puis, je suis triste parce que je comprends aussi, comme c'était une grossesse désirée, donc je comprends que donc je suis plus enceinte. Voilà, donc je m'étais déjà assez, même si c'était le tout début, je m'étais déjà projetée, quoi. Donc c'était difficile de faire autrement. Et puis j'avais honte parce que quelque part, je réalisais que j'avais 32 ans, je suis journaliste et en fait, je réalisais que je savais pas comment on fabriquait les bébés, quoi. Que les premières étapes, je connaissais pas ça. Donc j'avais honte. Et puis j'étais un petit peu en colère parce que en fait je me disais que peut-être que ces explications j'aurais pu les avoir sur place et pas sur Instagram quoi.
Et de ces émotions justement dont vous nous faites part, vous allez les transformer aussi en passage à l'action. Faut oser quand même franchir ce pas vers l'action. Vous le faites, vous saisissez du coup le CHU de Rennes à travers un courrier que vous voyez plutôt désormais comme un tract. Vous dites que le but, c'est pas de taper sur l'hôpital, mais c'est de proposer des améliorations en termes d'information aux patientes. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement ce qui s'est passé à ce moment-là ? Vous le dites vous-même justement, en tant que journaliste, vous vous êtes senti mal informé. Comment justement on transforme un petit peu l'essai ?
Alors pour le coup c'est vraiment un réflexe, c'est-à-dire que moi je suis vraiment en boucle en train de me repasser la consultation et j'essayais de comprendre où ça avait merdé quoi. Qu'est-ce qui fait qu'en fait je suis sortie de là sans comprendre vraiment ce qui m'arrivait. Et pour moi c'était pas nécessairement que de la faute de l'hôpital. Voilà, je pense que les choses elles sont toujours beaucoup plus compliquées que ce qu'on peut voir au premier abord. Donc moi mon idée c'était vraiment d'écrire une lettre en disant ce que j'avais vécu. Donc de mon point de vue personnel, c'est pas forcément la vérité, mais voilà, de la façon la plus factuelle possible. Mais voilà, c'était pas du tout une démarche altruiste ou une action en fait au début. C'était vraiment un truc pour me soulager. C'était très individuel en fait, voire égoïste. C'était pour déposer ce que j'avais vécu quelque part. Et il me semblait à ce moment-là que l'endroit pour le faire, c'était le CHU, puisque c'était là que ça s'était passé. tentait pas de, de réponse. Hein. C'était vraiment.
C'était ouais, une lettre libérer, voilà, pour vous libérer. Moi, je tiens quand même juste à faire une petite précision. On parle de fausse couche précoce, mais il faut quand même dire pour toutes celles qui sont nullipares, qui n'ont pas eu encore d'enfants et surtout tous ceux qui ne connaissent pas ça, c'est que dès les premiers jours, les premières semaines, on peut avoir, je me tourne vers Louise pour avoir son affirmation, on peut avoir des signes, hein, les seins qui grossissent et qui font mal, des nausées très vite. Et justement, Louise, pour revenir à vous, d'abord je m'excuse d'avoir écorché, alors, je ne l'ai pas écorché votre nom, je l'ai inversé. Donc Louise Jacot-Thierry, comment on prend en tant que soignante ce genre de courrier et les demandes de ce genre émanant de patientes avec peut-être quand même une mise en cause du manque d'informations? Comment on le prend en tant que soignante?
Bah, ça attire tout de suite notre attention, ça c'est certain, parce qu'on a vraiment dans nos priorités de prise en charge le vécu des patientes. Notamment du coup leur donner une information complète, compréhensible, pour qu'elles puissent avoir les clés de ce qui leur arrive et qu'elles puissent être partie prenante de la prise en charge et leur donner un pouvoir d'agir. Donc ça fait vraiment partie de nos priorités. Donc quand on voit qu'il y a eu une situation où ça n'a pas été bien vécu par les patientes, on a tout de suite envie de se remettre en question et de se mettre au travail pour éviter au maximum que ça arrive. Donc il n'y a pas de prise en... Personnellement, on n'est pas vexé, blessé. On est attristé, ça c'est sûr, parce que quand on manque à nos priorités, c'est jamais agréable. Et puis aussi, quand on apprend que quelqu'un a mal vécu notre prise en charge, voilà, on a une empathie aussi, forcément, pour les patientes qui traversent ça. Donc, on s'est mis au travail. Et en fait, ça a tombé aussi à un moment où, à l'hôpital, on s'interroge beaucoup sur les violences obstétricales et gynécologiques, qui est une prise de conscience sociétale, médiatique, et une prise de conscience du coup qui a lieu aussi à l'hôpital. Et donc on était en train de travailler justement sur un groupe de travail entre professionnels avec Marie Gourdel qui est sage-femme coordonnatrice pour réfléchir, faire un état des lieux de ce qui se passe dans nos services et un plan d'action d'amélioration. Et dans ce plan d'action, il y avait vraiment améliorer l'information qu'on donne aux patientes, notamment dans le cadre de l'urgence, parce que en fait on reçoit les patientes pour suspicion de fausse couche ou de grossesse extra-utérine aux urgences. Et donc, ce n'est pas des lieux qui sont toujours favorables à l'information. Non seulement parce qu'il n'y a pas forcément le temps, et puis parce que aussi l'état émotionnel des patientes est parfois. On doit gérer ça en même temps. Donc, ce n'est pas forcément évident. Des internes qui sont parfois jeunes. Et donc, on voulait faire un travail là-dessus. Donc, ça nous a paru comme une évidence de travailler en lien avec. Une patiente, et donc Madame Hervaux est tombée à pic.
Charlotte est arrivée au bon moment.
Résultat, du coup, il y a deux livrets d'informations à destination des personnes concernées qui peuvent être largement lus par les entourages, les familles, les amis, etc. Donc sur la grossesse arrêtée précoce, la fausse couche, et la grossesse extra-utérine. Louise, du coup, peut-être une définition rapide de la grossesse arrêtée précoce et de la grossesse extra-utérine pour que tout le monde ait la même définition.
Tout à fait. Donc une grossesse arrêtée précoce ou fausse couche, donc c'est une grossesse qui s'arrête spontanément avant la 14e semaine d'aménorrhée. Une grossesse arrêtée tardive, c'est avant la 22e semaine d'aménorrhée, qui peut s'accompagner ou non de saignement. Et puis la grossesse extra-utérine, c'est une grossesse qui va s'implanter dès le début à un autre endroit que la cavité utérine, là où elle doit normalement s'implanter. Donc ça peut être le plus fréquemment au niveau de la trompe, mais également au niveau de l'ovaire, parfois en intra-abdominal, donc beaucoup plus rarement. Hein. Voilà, mais en tout cas, c'est des grossesses, les grossesses extra-utérines qui ne sont pas viables, puisqu'il n'y a que la cavité utérine qui soit faite pour accueillir une grossesse jusqu'à terme.
ça, justement, dans le livret, il y a un schéma hein, qui nous montre bien, justement, où doit se loger ce fameux sac et pas être en dehors. Donc, dans ces livrets, hein, très rapidement, on trouve des informations très concrètes et précises. Les traitements et leurs potentiels effets, la durée des opérations, si jamais opération il y a, l'explication du langage médical, je pense notamment au taux d'hormones bêta-HCG, merci, l'hormone de grossesse, le schéma de l'organe génital féminin de reproduction, l'explication aussi de pourquoi souvent on ne recherche pas forcément les causes d'une fausse couche ou d'une grossesse extra-utérine, le message bienveillant aussi aux personnes concernées pour leur dire qu'il ne s'agit nullement d'une faute de leur part, etc. Et les chiffres également que je redonne en France, hein, quelques 16 000 cas de grossesse extra-utérine sont recensés chaque année selon la Haute Autorité de Santé, soit près de 2% des grossesses. Et en France, toujours, chaque année, près de 200 000 femmes sont confrontées à un arrêt spontané de grossesse, selon les pouvoirs publics, soit 15% des grossesses.
Et c'est pas rien. Et alors, les livrets, ils sont pensés pour être distribués lors de consultations, mais Charlotte, vous dites qu'ils ne doivent pas la remplacer, mais l'accompagner. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le livret, il est donné à la fin, il est où on l'ouvre en même temps que la patiente en consultation, comment ça se passe?
Alors je sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais en tout cas dès le départ, l'idée c'était effectivement pas de que les livrets remplacent une consultation. Les informations, elles doivent être d'abord données par le ou la professionnelle de santé. Après donc ce sont des livrets de 15 pages, donc forcément on pouvait pas tout dire, donc il a fallu hiérarchiser l'information. Comment on fait, c'est-à-dire que bah, moi je me suis basée sur mon expérience, Mathilde aussi, mais ça ne suffisait pas. Ce qu'on a beaucoup utilisé, c'est les réseaux sociaux et notamment aussi le forum WeMoms. Pourquoi ? Parce que ça nous permettait de voir les questions qui revenaient le plus des femmes. Donc c'est comme ça qu'on a recensé aussi... Ben, par exemple, il y a quelque chose qui revenait beaucoup, c'était qu'on dit souvent aux femmes que ça va faire comme des grosses règles. Et en fait, donc on s'attend pas, on s'attend peut-être à avoir du sang, mais on s'attend pas forcément à avoir par exemple des caillots ou possiblement l'expulsion de l'œuf. Ça, c'est quelque chose qui choque beaucoup de femmes et elles le disent dans les témoignages. Donc oui, on donne ce genre d'informations dans le livret, ce qu'on peut s'attendre à voir par exemple. Et évidemment, on a partagé tout ça aussi avec l'équipe du CHU, parce que les sages-femmes et les gynécologues et l'infirmière aussi qui a participé, elles avaient aussi des choses à dire là-dessus. Qu'est-ce que vous entendez, vous, en consultation? Voilà, c'était des choses sur lesquelles on a échangé, en fait, à ce moment-là.
Oui, vous avez mutualisé les connaissances, en fait, sur le sujet, et c'est ça qui le rend très, très intéressant.
Et c'était aussi ce que disait Louise, c'est-à-dire que pendant la consultation, bah, c'est vrai que nous, on peut être débordés par nos émotions. Moi, clairement, je pense que mon cerveau, il s'est arrêté à « il n'y a pas de sac ». Donc, il y a peut-être eu aussi des informations qui ont été données et que je n'ai pas assimilées parce que je n'étais pas en état de le faire. Et donc, ces livrets, ils permettent de repartir avec des informations qu'on peut consulter plus tard. Et aussi, ça permet aussi de nous soulager la charge émotionnelle qui est de devoir tout réexpliquer à la partenaire s'il y a quelqu'un qui nous qui pouvait pas forcément être là, en fait. Oui. Donc ces livrets, ils permettent aussi, oui, de nous soulager, encore une fois.
Ça permet aussi de... Enfin, on s'est rendu compte que nous, on avait des connaissances médicales qu'on appliquait, qu'on expliquait, mais qu'il y avait aussi des connaissances de l'ordre du vécu, des patientes qui ont leurs propres connaissances qu'on ignorait si on n'était pas passé nous-mêmes par là. Et notamment, par exemple, le fait que de dire aux patientes de prévoir d'acheter des protections hygiéniques assez conséquentes. Ça, moi, je prévoyais des risques quand reconsulter, quand est-ce que ça vous met en danger, les antidouleurs, ça ok, mais alors les choses pratico-pratiques, et ben finalement on a croisé nos connaissances pour que les patientes aient des informations la plus complémentaires possible, et du coup j'insiste aussi sur la nécessité d'une consultation médicale, parce que chaque situation est différente, c'est parfois difficile de faire le diagnostic d'une grossesse extra-utérine ou d'une fausse couche du premier coup. Et donc il y a beaucoup de « et si, et si, et si » d'ordre médicaux. Donc il faut vraiment aussi avoir un étayage médical sur ces consultations.
Non, et puis c'est aussi important d'avoir l'avis médical sur ce qu'il y a à faire. La grossesse extra-utérine, vous opérez systématiquement ou pas, voilà. Et sur la fausse couche, est-ce que on décide de donner un médicament pour aider à l'évacuation ou est-ce que on fait un curetage? Enfin, c'est aussi ce rendez-vous, il est absolument pas négligeable. Je vous propose qu'on fasse une nouvelle pause musicale dans Les Héroïnes sur Canal B. On va écouter une reprise de Marion Rampal qui a repris le titre « Pendant que les champs brûlent » de Niagara.
Les arbres se penchent et plus fort que tout. Et aux branches, l'air me semble encore trop doux. Dans l'herbe écrasée, à compter mes regrets.
C'était la reprise de « Quand les champs brûlent » de Niagara par Marion Rampal dans Les Héroïnes sur Canal B. Et on est toujours avec Charlotte Hervaux, journaliste, et Louise Jacotieri, gynécologue obstétricienne, pour parler de deux guides sur les fausses couches et les grossesses extra-utérines, Marine.
Oui, justement, dans les livrets, vous faites mention de l'AGAPA, une association qui accompagne les personnes confrontées à un deuil périnatal ou une interruption de grossesse et qui a une antenne à Rennes. Alors moi, j'ai découvert l'existence de cette structure, alors qu'il est maintenant malheureusement très fréquent d'avoir dans son entourage ou soi-même vécu la grossesse arrêtée précoce ou la grossesse extra-utérine. Et du coup, ça résonne vraiment avec le propos justement du livre de Judith Akien sur les trois premiers mois de grossesse et le silence qu'il y a autour. D'où est-ce qu'il vient ce tabou autour de ces grossesses arrêtées involontairement?
Ouais, bah c'est sûr que le livre de Judith Akien, je pense qu'elle aurait beaucoup plus de choses à dire que moi et Mathilde aussi. En tout cas, je pense que ce qui peut-être l'entretient, c'est le fait qu'on est considéré comme véritablement enceinte par la société à partir du moment où on a la déclaration de grossesse. Donc l'échographie du premier trimestre, trois mois, on est officiellement enceinte. Et avant ça, comme il y a ce risque de la fausse couche qui pèse, on se tait. Enfin, voilà, en tout cas. Donc je pense que ça contribue en fait à ce tabou. Puis après, il y a plein de choses aussi au niveau individuel. Il y a le fait que qu'on peut avoir, si on l'a déjà vécu, on peut avoir honte de ce corps qui n'a pas marché, entre guillemets. Ça peut être aussi par une habitude qu'on remet pas en cause, comme une tradition, on se tait pendant ces trois mois et le tabou persiste. Louise, peut-être...
Oui, une peur aussi de peut-être s'investir trop tôt si on annonce sa grossesse trop tôt. Et donc une fois qu'on n'a pas annoncé la grossesse, annoncée dans le même temps qu'on l'a perdue, ça peut devenir aussi très compliqué pour les femmes. Et donc il y a peu d'échanges entre femmes, puisque en fait dans notre entourage... Tout le monde en a vécu, enfin beaucoup de monde en ont vécu et qu'on n'en entend pas parler. Donc j'imagine que oui, c'est très multifactoriel.
On le disait en début d'interview, on peut parler du terme fausse couche. Et Charlotte, on a pu constater avec Marine que sur Facebook, lorsque vous l'écrivez, vous le mettez entre guillemets et vous n'oubliez pas de parler de fausse couche vrai vécu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ?
Oui, bah en fait, ça a été une des premières questions qu'on s'est posées, c'est quel titre, comment on va intituler le livret et de quoi on parle. Donc en fait, on a fait un choix de parler de fausses couches en titre parce que c'est ce qui, quand même, c'est le terme qui parle au plus grand nombre. Par contre, le sous-titre du livret, c'est ce que vous devez savoir sur les grossesses arrêtées au premier trimestre. Et dès la première page, effectivement, on explique comme le dit le collectif Fausse Couche Vrai Vécu, on est consciente que ce terme, il peut poser problème parce qu'en fait, il peut culpabiliser, il invisibilise en fait l'événement et il peut culpabiliser les femmes qui vivent ces fausses couches. Voilà.
Oui, il y a rien de faux dans la fausse couche et en même temps, d'expérience, et les infirmières notamment des urgences nous l'ont dit, quand une femme se présente, elles viennent parce que elles font une fausse couche ou elles ont peur de faire une fausse couche. Et donc, c'est vraiment le terme utilisé par le plus grand nombre, mais il fallait que ça attrape l'œil pour que les gens aient envie de le lire et sachent tout de suite de quoi on parle.
Ça permet du coup d'implémenter aussi dans le vocabulaire, justement. On commence effectivement, comme vous l'avez dit, avec le titre fausse couche, mais au fur et à mesure, on peut aussi s'approprier ce terme de grossesse arrêtée et l'information permet justement de libérer la parole. Du coup, j'en viens à ma question, parce que vous citez dans les livrets aussi des podcasts comme Bliss, Un temps pour naître ou Au revoir podcast. Depuis MeToo, on dit que c'est pas la parole qui se libère, en fait, c'est l'écoute. Mais pour autant, sur ces thématiques quand même relatives à la grossesse, notamment la grossesse arrêtée, on a quand même l'impression que la parole, elle n'est pas totalement libérée. Comment est-ce que l'une et l'autre, vous le ressentez ?
Moi je trouve qu'il y a du mieux ces dernières années quand même. J'en parlais tout à l'heure, moi hier soir j'ai regardé la série Split donc sur une chaîne qui s'appelle Splash. C'est une chaîne du service public et je pense qu'il y a 10 ans, donc il y a un épisode en fait qui s'ouvre justement sur une consultation où on annonce une grossesse arrêtée, et je pense qu'il y a 10 ans on n'aurait pas forcément vu ça sur une chaîne du service public. Après, la limite, c'est que c'est des sujets pas joyeux et souvent, comme un tas de sujets, on s'y intéresse quand on est concerné, quoi.
Et sur le plan plus médical, le sujet de la fausse couche, de l'annonce en tout cas, de la fausse couche, est de plus en plus au programme des formations, des jeunes collègues, des internes. Il y a une vidéo qui est parue aussi sur Internet qui met en scène une annonce de fausse couche qui se passe mal pour donner des exemples de quoi réfléchir comme outil de travail pour des séances pédagogiques avec des étudiants. Donc il y a beaucoup de choses qui se font là où avant il y avait peu d'importance accordée à l'annonce.
Oui, et c'est tant mieux. Une action comme la rédaction et la diffusion de ces livrets, ça a un impact, c'est certain. Quel retour vous avez eu toutes les deux ?
Alors en interne, la distribution auprès de mes collègues qui sont le plus souvent en première ligne aux urgences, donc les internes, ça a été vraiment très bien accueilli parce que c'est vraiment un soutien pour eux de pouvoir à la fois expliquer, s'appuyer sur les dessins, être certain que au final les femmes auront quelque chose d'exhaustif qu'elles pourront relire plus posé à la maison. Enfin, ça a été vraiment un soulagement et je pense que ça a aussi favorisé l'attention portée à la façon dont on le fait. Ça sensibilise les professionnels des urgences gynécologiques.
Et de notre côté, enfin c'est surtout le post de Mathilde qui a eu beaucoup d'écho, donc sur Instagram elle est assez suivie. Il y a eu peut-être 200 commentaires, il y a eu beaucoup de femmes moi qui m'ont écrit pour me raconter ce qu'elles ont vécu, et en fait il y a eu beaucoup de bravo, de merci, mais ce qu'on a aussi beaucoup lu, c'est « j'aurais aimé avoir ça quand ça m'est arrivé ». On a aussi beaucoup de professionnels de santé, notamment libérales, qui nous demandent où les trouver, qui sont même prêts à payer en fait pour avoir ces livrets. Donc on a eu plutôt des bons retours. En fait, on a eu que des bons retours, mais avec un goût de trop peu, au sens où ce qu'on entend, c'est qu'il en faudrait partout et pas uniquement au CHU de Rennes, quoi.
Alors, on peut espérer qu'en 2024, les livrets dépassent Rennes, le CHU de Rennes. On peut espérer ça parce que en 2024, il y a un arrêt maladie qui va être reconnu, notamment enfin. Je vous cache pas qu'on aurait aimé, certaines d'entre nous, l'avoir bien avant, cet arrêt maladie, parce que c'est un vrai vécu, effectivement. Merci Charlotte Hervault, merci Louise Jacot-Thierry. On remercie aussi. Elle n'est pas là, Mathilde Lemiel. Et on rappelle son Instagram. Merci Marine.
Merci.
Cette co-interview brillante, comme d'habitude. Alors, surtout, n'hésitez pas à aller retrouver les deux livrets qui sont disponibles sur le site du CHU de Rennes. N'hésitez pas à les lire, même si ça ne vous concerne pas. C'est toujours un savoir utile. Ça peut arriver dans votre entourage et vous saurez alors dire ce qu'il faut peut-être aux femmes qui vous entourent, à qui ça arrive. Et puis bien sûr, moi je vous mettrai toutes les infos, les liens sur le blog des héroïnes, sur le site internet de Canal B, canalb.fr. Et puis ben, c'est la fin de cette émission, donc on se dit à bientôt. Je crois que la prochaine fois, ça doit être à la fin du mois. Bon week-end, bonne fête de fin d'année si vous les fêtez. Salut.